Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière émission consacrée à l'islam avec le professeur Mohamed Arkoun, professeur émérite de l'histoire de la pensée islamique à Paris 3 et attaché à plusieurs universités européennes et américaines et auteur du livre de Manhattan à Bagdad, Au-delà du bien et du mal aux éditions des Clés de Brouwer, ainsi que monsieur Rachid Benzin, chercheur en herméneutique coranique, science de l'interprétation des textes sacrés et auteur du livre Les nouveaux penseurs de l'islam, sorti aux éditions Albin Michel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion autour de la pensée arabe et islamique face au 11 septembre 2001. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes invités à poser vos questions, à participer cette fois-ci en direct. Nous n'enregistrerons pas vos questions à partir, comme d'habitude, de la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire à 11h30, juste après la publicité. Donc, bien entendu, vous posez vos questions, une seule question par personne, question claire, précise et concise. Et le professeur Mohamed Arkoun se fera le plaisir d'y répondre. C'est vrai que par souci de temps, on a essayé d'organiser vos questions. Hier, je m'excuse auprès des auditeurs qui ont posé des questions et à qui le professeur Mohamed Arkoun n'a pas pu ou n'a pas eu le temps plutôt de répondre. Il le fera aujourd'hui avec grand plaisir.
Dans la mesure où le temps nous est donné toujours.
Tout à fait. Professeur Mohamed Arkoun, vous nous avez parlé hier, vous nous avez éclairé sur l'évolution et la richesse de l'islam qui s'est imprégnée des diverses sciences et cultures à travers le temps. Vous nous avez énoncé les différentes périodes de l'islam prophétique qui débute depuis donc la révélation, l'islam classique qui se réfère au pluralisme doctrinal, à une certaine liberté d'examen des écritures, une période présentée par les orientalistes comme étant l'âge d'or de l'islam qui s'éteint avec la chute du califat abbasside fondé à Bagdad, puis de l'islam scolastique en référence à la période de rétrécissement de la pensée. Je pense que vous allez revenir sur la période classique pour après nous parler de l'islam contemporain et de l'islam fondamentaliste.
Oui, merci pour ce résumé qui met dans le bain les auditeurs qui viennent seulement ce matin et qui n'ont pas écouté les précédentes émissions. Ça, c'est l'inconvénient d'un cours suivi qui est donné à la radio. Et il est nécessaire, en effet, de revenir sur la question de l'islam classique parce que, comme nous l'avons dit, tous les musulmans aujourd'hui sont obligés de se référer aux grandes œuvres de cette époque classique, c'est-à-dire, je le répète, du 8e siècle jusqu'au 13e siècle. Or, cette période de l'histoire de la pensée est une période que l'on appelle en Europe le Moyen-Âge. Et c'est une période qui est tout à fait distincte de la période qui va suivre le Moyen-Âge et qui est celle en Europe de la modernité. Al-Hadatha, la fameuse modernité, qui fait couler tant d'encre, mais qui continue de manquer aujourd'hui, dans la pensée, d'expression arabe, comme je l'ai dit hier, et pas la pensée arabe, je n'y reviendrai pas. Et il est très important de comprendre par conséquent que malgré l'importance de la période classique, de l'islam classique du point de vue de la pensée, parce que c'est à ce moment-là qu'on a construit une théologie musulmane. Quand je dis théologie, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs ne savent pas exactement de quoi s'occupe la théologie. Théologie est un mot grec, composé de deux mots grecs. Théos en grec, ça veut dire Dieu. Et logos, ça veut dire le discours rationnel. Le logos en grec, c'est la raison critique, analytique, qui lit les textes religieux pour essayer d'introduire une intelligibilité, c'est-à-dire une compréhension, par exemple des attributs de Dieu. Dieu se présente à nous avec des attributs. Ar-Rahman ar-Rahim. Al-Muhit bi kulli shay. Ce sont des attributs que Dieu utilise pour parler de lui-même dans le Coran. Alors, les théologiens se posent la question. Comment allons-nous comprendre et interpréter ces attributs? C'est un grand problème. Et ce problème a nourri de très gros volumes. Et ce sont des volumes de discussion. Ce ne sont pas des volumes dogmatiques. Voilà un type de réflexion qui est extrêmement important. Il n'y a pas de religion sans théologie. Impossible. Parce qu'une religion sans théologie, c'est une religion qui ne veut pas s'adresser à la raison et donner la parole à la raison. Elle donne la parole uniquement à la croyance et au rituel, c'est-à-dire à l'émotion et aux accomplissements rituels de la prière, du hajj, etc. Ça, c'est un point extrêmement important que les musulmans d'aujourd'hui négligent. Par exemple, tous les débats que nous avons en France au sujet du voile, ça ne relève pas exclusivement du droit de la charia, comme on dit, qui dit il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Ça relève aussi de la théologie. Comment interpréter un ordre de Dieu, une prescription divine, et comment l'interpréter selon les circonstances où se trouvent les musulmans ou les chrétiens ou les bouddhistes pour pouvoir ajuster, approprier, réguler les prescriptions divines en fonction des pressions de l'histoire qui change. Ça, c'est la théologie. Eh bien, l'islam classique, c'est lui qui a construit une théologie. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de refaire cette théologie. Parce que ça, c'est une théologie du Moyen-Âge. Il y a eu la modernité. Certes, la modernité n'a pas surgi des sociétés musulmanes, mais elle est là maintenant sous diverses formes dans les sociétés musulmanes. On ne peut pas l'ignorer. Elle est là sous forme d'une connaissance scientifique. Comme nous l'avons dit, la linguistique, par exemple, est une science qui a fait d'énormes progrès. On ne peut pas se contenter de la grammaire arabe de Sibawayi ou de la rhétorique des auteurs qui s'y sont intéressés, comme Al-Jurjani, qui était un grand spécialiste de la rhétorique, toujours l'islam classique, pas aujourd'hui, qui entre aujourd'hui dans la construction d'une rhétorique moderne de la langue arabe.
Vous êtes en train de dire que nous vivons toujours avec cette théologie médiévale.
Non, le point ici que j'essaye d'expliquer aux auditeurs, c'est que même si nous arrivons à connaître et à enseigner correctement les ouvrages de Tabari, de Fakhreddin Razi, de Farabi, de Ibn Sina, de tous les grands auteurs qui ont fait la théologie, qui ont fait le fiqh, qui ont fait le tafsir, qui ont fait la grammaire, même si nous connaissons tout cela, eh bien, ce sera insuffisant. Nous ne pouvons pas nous en tenir à ce que ont écrit ces grands chercheurs et penseurs au Moyen-Âge, parce que la modernité scientifique, la modernité intellectuelle a dépassé cette forme de la connaissance. Voilà le point que je veux absolument que tout le monde comprenne. Et ça, je parle toujours en historien. C'est pour cela que l'histoire est tellement importante. Parce qu'elle nous enseigne pourquoi je ne peux pas me contenter des interprétations que Tabari donne du Coran. Parce que je découvre que Tabari lui-même, quand il donne des interprétations du Coran, il obéit plus au débat du Xe siècle, car il a travaillé à la fin du IXe, début du Xe siècle, ça fait déjà 4 siècles qui sont passés, et 4 siècles de discussion et de recherche, et Tabari est un chercheur libre, donc il prend position lui-même. Il prend position face aux autres. Il discute les autres. Donc il est de son temps. Et voilà pourquoi, quelle que soit l'importance de ce qu'il nous enseigne, et c'est très important, surtout comme source, parce qu'il a retenu beaucoup de ce qu'on appelle akhbar, pour les asbab nuzul, c'est-à-dire les circonstances de la révélation et tout ça, c'est une source importante. On en a besoin. Mais ça n'est pas suffisant. Comme on le verra quand on parlera du Coran, il faut aujourd'hui aller à d'autres sources. Et ces sources-là, aujourd'hui, ne sont pas en langue arabe. Elles sont produites par des chercheurs qui sont des chercheurs anglophones, francophones, germanophones, en langues européennes. Voilà encore une difficulté du rapport de l'islam actuel vis-à-vis de son âge d'or certes, mais âge d'or insuffisant.
Professeur Harkoun, vous parliez tout à l'heure de la grammaire arabe. Alors, beaucoup d'intellectuels aujourd'hui souhaitent faire évoluer cette langue et l'adapter à notre temps, mais ils sont souvent confrontés à ce qu'on appelle être la sacralité de la langue arabe qui se réfère au Coran, parce que c'est la langue du Coran.
D'abord, c'est un problème de théologie. Ensuite, c'est un problème de philosophie de la langue. La philosophie de la langue. Et on l'étudie dans une discipline qui s'appelle langue et pensée. Quels sont les rapports entre la langue et la pensée? Comment une langue peut enrichir la pensée et la porter en avant? Et comment une langue peut créer des difficultés et la retenir vers l'arrière? Je donne un exemple rapide. Même deux exemples. Nous disons, pour traduire le mot mythe, qui est un mot extrêmement... C'est une clé des cultures, de toutes les cultures. C'est une clé pour entrer dans n'importe quelle culture. Mythe, le récit mythique. En arabe, nous l'appelons ostora. Eh bien, c'est faux. C'est une mauvaise traduction. Parce que elle empêche la pensée de comprendre ce que représente le mythe dans la science anthropologique d'aujourd'hui.
Et comment faudrait-il le traduire?
Il faudrait le traduire par qassas, parce que le Coran utilise ostora et il utilise qassas. Inna naqussu alayka ahsan al-qassas, dit-il dans la sourate Yusuf. C'est-à-dire, nous vous présentons les meilleurs récits mythiques, les plus beaux. Il est beau et en même temps, il est plein de substances de vérité.
Professeur Harkoun, c'est très important ce que vous dites parce que ces histoires ne sont pas vues comme des mythes.
Il y a le Coran là devant nous, on l'a mal lu, on n'a pas regardé la différence entre Qasas et Ostora que le Coran lui-même fait. Inama hiya asatirul awwalin. Ça, c'est pour discréditer les récits mythologiques de la Jahiliya et les remplacer par les récits authentiques, substantiel, vrai, au sens de la vérité mythique, que le Coran veut substituer au récit des anciens Asatir al-Awwalin. Ce sont toujours des récits, mais dans un cas, il les rejette, il les disqualifie, et dans un cas, il les élève, il les qualifie ou les requalifie. Cette lecture-là de ces deux mots n'a pas été faite correctement. Et je m'en étonne, ça, parce qu'il y a quand même des savants qui peuvent... Mais comme ils n'ont pas étudié l'anthropologie moderne, et comme ils n'ont pas étudié les dialogues de Platon, comme Farabi les connaissait, comme El-Kindi les connaissait, comme les philosophes dans l'islam classique les connaissaient, voilà encore une différence. Parce que la pensée islamique, comme je l'ai dit hier, a abandonné la science, la connaissance et la réflexion philosophique à partir du XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on s'est privé de ce lexique. Un deuxième exemple, très rapidement, le mot sacré et le mot saint. En français, dans les langues européennes, on fait une grande différence entre al-muqarraboun, l'awliya en arabe, les saints, et puis le sacré. Et les deux, sacré et saint, en arabe, on dit le Quds ou le Muqaddas. Le Muqaddas, c'est le saint. Ça n'est pas le sacré. Parce que le sacré est du côté de la prohibition, de l'interdit, de ce qu'il ne faut pas approcher, de ce qu'il ne faut même pas toucher du doigt parce qu'on le souille. Anthropologiquement, ce sont deux choses totalement différentes. Et nous, dans la langue arabe, Al-Quds ou Al-Muqaddas. Alors, quand moi, je fais une conférence en arabe, je m'arrête.
Donc, c'est de là que vient la
malgarde. Regardez, j'ai passé déjà 5 minutes à expliquer ça, ou plus. Et j'ai été vite. Donc, quand je fais une conférence en français, je dis le mythe et je passe. Même devant des Français, il faut aussi leur expliquer. Là, il ne faut pas non plus exagérer et oublier que le public français ne connaît pas ce que c'est que l'anthropologie. Mais enfin, il y en a plus qui le connaissent que dans un auditoire indonésien ou un auditoire sénégalais ou un auditoire même algérien et marocain.
Justement, une question, est-ce que vous pourriez, un, définir le mot anthropologie pour les auditeurs et deux, revenir sur cette sacralité de la langue arabe, puisque vous l'avez abordé sur l'aspect philosophique.
Exactement,
et sur l'aspect théologique. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, le mot anthropologie, c'est toujours du grec. Vous savez, les langues européennes dérivent du grec et du latin. Ça aussi, c'est très important. Car ça veut dire que dans le grec et dans le latin, il y a eu pendant des siècles, 10 siècles, un travail du lexique philosophique qui a été fait dans l'Antiquité. D'où l'importance de la Renaissance en Europe au XVIe siècle. La Renaissance, c'est la redécouverte de tout ce qui a été fait et écrit dans la civilisation romaine et dans la civilisation grecque avant. L'arabe, la langue arabe, a eu la chance d'accéder à ce trésor, mais pas à l'ensemble du trésor. La langue arabe a retenu et a traduit un certain nombre d'ouvrages philosophiques, mais pas les ouvrages de droit romain. Or, le droit romain a joué un rôle considérable dans la formation du droit européen. Et jusqu'à présent, dans les facultés, on enseigne le droit romain. Parce que le droit romain avait déjà répondu à de très nombreuses questions et a fait évoluer la pensée juridique. Voilà pourquoi les langues européennes reviennent à ce lexique-là, anthropologie, anthropos, en grec, ça veut dire l'homme, l'insan. Et logie, c'est comme théologie, c'est comme sémiologie. Logie, dès qu'il y a logie, c'est le logos. Le mot logos grec est d'une richesse exceptionnelle. Je n'ai pas le temps de le... C'est pour cela qu'on le retrouve dans les noms de toute islamologie, on dit.
Est-ce que l'arabe est une langue sacrée?
Alors, attendez, oui, tout de, il faut terminer les choses. Et donc là, anthropologie, c'est la connaissance rationnelle, scientifique de l'homme, de tout ce qui relève de l'homme. Tous les problèmes que pose l'homme comme homme, et on le regarde dans sa réalité d'homme. Si l'homme parle de divinité, je vais m'intéresser à la façon dont l'homme parle de la divinité. Et je vais m'interroger sur la qualité du discours que l'homme produit sur les dieux, ou le dieu. Vous voyez la relation. Et l'importance qu'il y a à conquérir le territoire de l'anthropologie. Parce que ça enrichit ma réflexion sur la religion et ça enrichit ma connaissance de Dieu. Et tout cela, on ne l'enseigne pas. On ne l'enseigne pas.
Malheureusement, on va passer à la sacralité.
La sacralité de la langue vient du fait que on a fait prévaloir la croyance sur la connaissance. Car toutes les langues humaines sont des langues, on dit, naturelles. Ça relève de l'invention empirique des hommes. Et ce sont les hommes qui les utilisent. Voilà pourquoi les Mu'tazilites ont perçu ce problème-là. L'école Mu'tazilite de théologie, vous voyez la théologie islam classique. Et les Mu'tazilites qui ont fait faire des progrès à la théologie en posant le problème, c'est un problème qui reste ouvert, il n'est pas fermé. Le problème dont j'ai parlé à cette radio, j'en ai parlé, du Coran créé et du Coran incréé, la fameuse question. Car cette question a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi du sang, et a engendré une inquisition des contrôleurs de l'orthodoxie musulmane, sunnite, contre les théologiens mu'tazilites qui essayaient d'expliquer et d'introduire une réflexion sur la différence du Coran entre le Coran créé et le Coran incréé. Et ça touche à la sacralisation de la langue par le Coran, parce que le Coran est révélé en langue arabe. De ce fait-là, évidemment, il est porteur d'une substance sacralisante, d'une force sacralisante. Et effectivement, on peut dire qu'il y a, dans le discours coranique, cet aspect de force sacralisante. Mais le discours coranique, il a son statut. Après, c'est les discours humains. C'est pas Dieu qui parle tout le temps, et Dieu ne peut pas parler par la bouche de Malik ibn Anas ou de l'Ash'ari ou de tous ces penseurs dont nous parlons. Pas plus que Dieu ne parle après Jésus-Christ, de Dieu incarné dans Jésus-Christ, quand il parle à propos de Jésus-Christ et de tout ce que Jésus a enseigné.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que toute l'élaboration de la théologie, de la charia, du fiqh sont des productions humaines.
Vous voyez, tout ce que je viens de dire, ce sont des problèmes de la pensée islamique. Et la pensée islamique s'en est occupée pendant 6-7 siècles de façon extrêmement active et productive. Je conseille par exemple aux auditeurs, ceux qui peuvent lire l'arabe, de lire les ouvrages d'Ibn Hazm, le grand penseur encyclopédiste qui a écrit des ouvrages sur toutes les disciplines au XIe siècle à Cordoue, c'est un Andalou. C'est-à-dire, il fait partie, en tout cas pour les Maghrébins, ça fait partie de ce que nous appelons l'islam occidental, l'Occident musulman. Mais qui lit Ibn Hazm? Et si les gens lisent Ibn Hazm, qui peut comprendre ce que Ibn Hazm dit dans ses ouvrages? Ça, c'est une très grande difficulté. Et c'est ça que j'entends, que par la rupture des musulmans, avec toute cette richesse intellectuelle, et c'est une rupture qui date de longtemps et qui est donc très profonde, à laquelle il est difficile de remédier, puisque c'est une rupture qui remonte, comme nous le disons, au XIIIe, XIVe siècle. Et une seconde rupture va intervenir après les années 1950, ça c'est la rupture idéologique par rapport au travail intellectuel lui aussi, à l'appel à la raison, aux efforts pour essayer de revenir à l'activité intellectuelle entre 19e siècle, début du 19e siècle, jusqu'en 1950. C'est la période que les Arabes appellent An-Nahda. C'est-à-dire, on se lève. On était couché, on faisait la sieste, c'est une métaphore qu'on fait souvent, et puis on se lève, ça y est, maintenant on est réveillé, on va travailler. On se met au travail. Ce travail qui a été inauguré, par exemple, quand on compare le travail de Taha Hussein ou de Ahmed Amin, qui font partie, ce sont les grands phares de la Nahda, au travail que produisent aujourd'hui les musulmans, il y a une très grande distance intellectuelle et scientifique, tout à fait éloignée, c'est-à-dire qu'on a oublié la leçon philologique dont j'ai parlé hier.
Justement, j'aimerais beaucoup, professeur.
À laquelle Taha Hussein, Ahmed Amin et beaucoup d'autres qui se sont occupés au 19e siècle, justement, d'introduire la philologie comme science moderne, eh bien, la philologie aujourd'hui, on n'en parle plus.
Professeur Harkoun, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur ce terme philologie et que vous nous rappeliez l'histoire du Aql, combien de fois on le retrouve dans le Coran. C'est très important que vous en parliez. J'en profite quand même pour donner le numéro de téléphone du standard de Radio Orient, 08 92 68 94 30 sefer tamania 92 87 94 30. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront nous appeler à partir de 11h30, juste après la pub, pour poser leurs questions. Alors, j'espère qu'ils ont réfléchi à leurs questions précises, courtes et concises.
Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier parce qu'on n'a pas le temps, mais je rappelle simplement que le mot aql, la forme aql, quand on dit aql, la raison ou l'intelligence, cette forme arabe, l'ouzn, n'existe pas dans tout le discours coranique. Le Coran ne l'emploie pas. Bon, le Coran emploie afala taqilun, qui est le verbe le mudari'a, en arabe. Le mudari'a et en français, l'inaccompli. Donc, alors, il faut se demander pourquoi ce mot est absent dans le Coran. Ça, c'est une question d'histoire. Ça n'est pas une question de théologie. Ça, déjà, cette distinction-là, elle est capitale. Parce que si nous continuons à dire c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, on oublie de faire de l'histoire. Et pour l'exégèse coranique, il est très important de comprendre que ce que nous appelons la raison et ce qu'on va appeler en arabe la raison à partir du 8e, 9e siècle, c'est-à-dire quand tous les textes philosophiques d'Aristote vont être traduits du syriaque à l'arabe ou du grec à l'arabe.
Professeur Harkoun, je vous interromps.
Eh bien voilà, c'est la radio.
Minutes, voilà.
Et là, au revoir, messieurs, dames.
Juste le temps de passer la pub. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent d'ores et déjà nous appeler. 08 92 68 94 30 Sefer Tamaniatni, notre 98 94 30 ou nous envoyer leur message par mail samira@radiorient.com. On passe la pub et on revient.
Voilà.
Merci d'être à l'écoute de Radio Orient. Nous poursuivons. Professeur Harkoun, je suis désolée, je vous ai coupé tout à l'heure.
C'est la loi du genre.
C'est la loi, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'en excuse. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler. Nous allons prendre leurs questions. 08 92 68 94 30 Sefer Tamaniatni, Notisain Tamaniosetin, Arbaotisain Talatin. Je rappelle qu'ils peuvent nous envoyer des messages par mail. samira@radiorient.com. J'ai ici un message d'Imen Géridi. Professeur Harkoun, je vous laisse terminer. Mais très rapidement, ce que vous nous disiez, c'est très important. Et oui. Après, je prends les appels et je vous lis
oui,
le mail.
Au sujet donc du mot aql, qui veut dire la raison, les activités de la raison, lorsque on a traduit toute l'œuvre d'Aristote, de Platon, de Galien et de beaucoup d'autres penseurs grecs classiques, on les a traduites en arabe, eh bien, le mot aql va envahir la langue arabe. Il va prendre une place dans la langue intellectuelle et donc dans la réflexion qu'il n'avait absolument pas jusqu'au 8e siècle, qui existait en syriaque, qui est une autre langue sémitique, mais qui n'existait pas encore dans la langue arabe. Autrement dit, la langue arabe s'est considérablement enrichie par l'adoption de la langue philosophique, de la langue scientifique, et à ce moment-là, le mot aql est partout. De même qu'aujourd'hui, nous vivons dans un rationalisme même hypertrophié aujourd'hui. On ne peut pas se passer de la raison. Alors aujourd'hui, que font les musulmans? Ils disent, mais la raison, elle est dans le Coran. Le Coran n'est que raison. C'est-à-dire qu'on élimine la dimension qasas, la dimension du récit mythique,
du mythe, oui.
par laquelle le Coran, comme la Bible, comme les évangiles, comme les textes bouddhiques, comme les grands textes religieux, qui s'expriment dans des récits mythiques que l'on appelle des récits fondateurs, mu'assisin.
Là aussi, on fait prévaloir la croyance plutôt que la connaissance, puisqu'on croit,
exactement, donc,
les musulmans croient au mythe.
Alors, le problème, donc, c'est que la langue arabe s'enrichit, mais ensuite, elle va de nouveau perdre le contact avec cet enrichissement et revenir à un lexique intellectuel extrêmement restreint et pendant des siècles. Et aujourd'hui, lorsque nous voulons traduire un livre de linguistique ou d'anthropologie en arabe, nous avons énormément de difficultés.
Professeur Harkoun, je vous propose de prendre notre premier appel, première question, une question par personne.
Oui.
Question précise, courte et concise. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, assalamu alaikum.
Alaykoum assalam, min ma'ay, allahu samart.
Je m'appelle Aladji Aboubakar.
Pardon ?
Je m'appelle Aladji Aboubakar.
Etfaddal hadratak.
Je vous appelle, comment dire, c'était
on pour
savoir
pas.
Où est-ce qu'on pouvait se procurer les cassettes des conférences du frère qui est à l'antenne, votre invité. Allô ?
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, votre question, parce que le professeur Harkoun ne vous a pas entendu.
Ah, je voulais savoir,
oui.
Est-ce qu'on pouvait...
Je n'entends pas.
Vous m'entendez mieux?
Ça va, professeur Harkoun?
Allô?
Non, ça ne marche pas.
Une seconde, allez-y. Donc, vous vouliez savoir où est-ce que vous pourriez vous procurer les cassettes du professeur Harkoun? Voilà. Alors, écoutez, pour cela, il faudrait... Enfin, qu'on vous prenne hors antenne pour vous expliquer. Je suis désolée, c'est pas du tout le sujet. D'accord. Donc, on vous prend, restez en ligne, on va essayer de répondre à votre question. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt sur Radio Orient. Bonjour, un autre appel.
Bah, toute question est courte. Hein.
Allô, oui, là, elle était très courte, la question. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Votre madame. Prénom, s'il vous plaît.
Oui, Mohamed.
Mohamed, tfadal,
hadrat. Oui. Je voudrais poser la question à monsieur Harkoun.
Oui.
Son discours ne nous propose rien du tout en alternative. Ça veut dire il y a qu'à, il faut que, mais entre-temps, on n'a rien qui consolide ses propos.
Vous voulez une réponse claire, toute faite sur la façon de faire, c'est ça?
Des actions. Bon. D'abord, son discours il n'est compréhensible par le 1 sur 10 millions du peuple.
Très bien, monsieur Mohamed. On va laisser le professeur Harkoun vous répondre. Merci. Au revoir. Professeur Harkoun, alors apparemment, vous n'êtes pas, votre discours n'est pas accessible et vous ne proposez pas de solution.
Ça, je sais très bien qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Nous avons dit et répété que c'est une expérience que nous faisons à travers la radio. Parce que d'un côté, le public se plaint que l'on ne lui donne pas justement des émissions plus instructives et des émissions qui élèvent un petit peu le débat sur des questions importantes.
Oui.
Et d'autre part, lorsqu'on essaye de lui donner, et je fais beaucoup d'efforts pour simplifier au maximum mon langage, alors il faut accuser le fait que l'école ne fait pas tout à fait son travail. Il y a aussi tout un public qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, nous le savons. Mais si les auditeurs ont la curiosité de comprendre... On leur donne des moyens, on leur donne des références, on leur donne des livres. Il faut qu'ils fassent un effort. Les choses ne peuvent pas descendre dans les têtes comme la révélation.
Professeur,
donc, et je réponds aussi à ce qui a été dit, que je ne propose pas d'alternative. Mais tout ce que je dis est une alternative. Quand je dis que on ne fait pas d'anthropologie, ça veut dire qu'il faut enseigner dans les écoles. L'anthropologie. Ça veut dire qu'il faut consacrer des émissions le plus simplifiées possible dans les médias pour aider ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir lire ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour les faire participer progressivement et que ces auditeurs acceptent de fournir l'effort nécessaire. Et la discipline de suivre, c'est une sorte de cours qu'on donne ainsi à la radio.
Professeur Harkoun, c'est...
Alors, sinon, justement, on ne démarrera jamais. Et il y aura toujours ceux qui ne comprennent pas et qui vont être laissés à leur impossibilité d'accéder à une meilleure connaissance. Et puis ceux qui comprennent, qui eux, ils comprennent et ils n'ont pas besoin
Cette intervention de Mohamed est intéressante dans le sens où beaucoup de musulmans aujourd'hui ou de citoyens musulmans attendent une solution toute faite. Et vous parliez d'efforts. Donc c'est aussi à eux de faire l'effort de
rechercher. Quand on lit un livre aussi, on ne comprend pas. Et quand on lit un livre, il faut que le lecteur se donne la peine. On n'a rien sans la participation. Les gens croient que on va leur donner des sortes de pilules qu'ils avalent et que ça fait du bien et que c'est terminé.
Non, il faut faire un effort personnel, donc
et
tout le monde a cette
nous
responsabilité.
Nous passons des années à l'école, nous passons des années à l'université. Mm-hmm. Moi, tout professeur que je suis, je continue à lire et à apprendre toute ma vie.
Bien entendu. Professeur Harkoun, nous prenons un autre
appel.
C'est
une question qui est tout à fait curieuse.
Bien sûr. Bonjour.
Allô.
Allô.
Bonjour Samira.
Madame Mariam, ahlan wa sahlan.
Bonjour monsieur Harkoun.
Bonjour.
Voilà, ma question, elle est en rapport, c'est par rapport au fondamentalisme qui s'est ancré dans les États en légitimant l'instance religieuse dans le pouvoir comme étant protectrice. Ou, moi à mon avis, est-ce que ces pays, ces États, justement, se sont constitués juste après l'occupation et ils n'ont pas eu le temps de créer d'outils de démarche démocratique. Et justement, ce fondamentalisme a trouvé un terrain favorable pour s'enraciner et imposer leur idéologie dévastatrice.
Merci beaucoup, Mariam. À très bientôt sur l'antenne de Radio Orient. Donc, une question pertinente, à savoir
Absolument. La naissance du fondamentalisme. Voilà des questions qui font avancer et qui, quand même, donner un peu plus de courage pour qu'on continue à faire des émissions de cette sorte à la radio. Donc il y a des auditeurs qui rebondissent et qui veulent aller plus loin. Voilà ce que nous souhaiterions faire à travers la radio. Et il faut reconnaître les mérites de Radio Orient qui tente cette possibilité parce que les radios, les médias veulent gagner de l'argent avec de l'audimat.
Puis ils vont vite, hein, ils sont rapides.
Et ils ne peuvent pas courir les risques que nous courons ici de recevoir c'était pas une question, c'était une sorte de fin de non-recevoir. Oui. La question précédente.
Oui, je rappelle que nous prenons tous les appels. Hein,
oui, absolument. Il faut tout prendre, bien sûr. Il faut connaître absolument. Il faut connaître toutes les réactions. Mais il faut faire des commentaires sur ces réactions.
Alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à Marie ?
Il faut expliquer avec la patience du pédagogue. Alors, la question du fondamentalisme mériterait à elle toute seule 2 ou 3 heures d'émission. C'est une question fondamentale, voilà. Quelle est la différence entre fondamental et fondamentaliste? Eh bien, la langue arabe nous dit « al-asl »,« al-usul »,« usul al-fiqh », »,« usul al-din ». Ce sont 2 sciences. On va me dire encore que c'est compliqué et qu'ils ne comprennent pas. Bien sûr! On n'enseigne plus les usul din et les usul fiqh comme une partie intégrante et centrale de la pensée islamique. Ça, c'est de l'arabe. Ce n'est pas du français ou de l'allemand ou de je ne sais quoi. Or, le point de départ du fondamentalisme, c'est ilm al-usul et ilm al-usul, usul fiqh et usul din. Le cœur même de la religion. C'est ça le point de départ. Alors, c'est pour cela qu'en arabe, maintenant, il faut faire la différence. Al-fikr al-usuli, en français, c'est la pensée fondationnelle. Fondationnelle, c'est-à-dire qui fait de l'effort intellectuel pour rechercher les fondements de la vérité religieuse. Les fondements de la loi religieuse. Aller vers les fondements. C'est dans ce sens qu'on dit c'est fondamental. C'est-à-dire, ça touche à ce qui soutient toute la charia, toute la théologie, toute la connaissance, toute la philosophie politique. Ça, c'est la pensée fondationnelle. Ensuite, il y a la pensée fondamentaliste en arabe, al-fikr al-usulawi, al-usulawiya, comme on dit sha'bi, et sha'bawiya, c'est la même chose. Et vous voyez, là, j'aimerais en dire plus, mais on n'a pas le temps. Alors, la pensée fondamentaliste, aujourd'hui, a disparu de l'enseignement en tant que recherche critique, rationnelle des fondements.
La question de Mariam était précise. Elle voudrait savoir si le fondamentalisme, justement, avait pris du terrain dans ces pays-là parce que le pouvoir politique n'avait pas encore pu prendre
place. Ça n'est pas la faute exclusive du pouvoir politique. Le pouvoir politique a une responsabilité parce qu'il n'a pas organisé un enseignement moderne de la pensée islamique. Ça, c'est la responsabilité de tous les gouvernements postcoloniaux, et je l'ai dit et écrit, et je le crie sur toutes les antennes.
Professeur Harkoun,
deuxièmement, oui. Il y a la responsabilité historique. Il faut demander pourquoi la philosophie a disparu, la théologie a disparu pendant des siècles chez les oulamas. Chez les oulamas, cette fois, ce n'est pas chez les politiques.
Professeur Harkoun, j'ai un mail ici d'Imen Jiridi qui dit, elle dit qu'elle a l'impression que les appellations théologie protestante ou scolastique, ainsi que toutes celles qu'elle comporte comme aspect culturel, cantonnent dans un espace européen, restent quelque chose intrinsèque à des théories ou des mouvances nées en Occident.
Donc elle se demande si on n'est pas en train d'appliquer des courants historiquement exogènes à l'histoire de l'islam et à l'islam.
Oui, 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 ça c'est... Voilà. C'est intéressant. Voilà, ça c'est une grande... ça c'est pas une question, c'est ce qu'on appelle un obstacle. Je n'ose pas dire le mot. Parce qu'ils vont dire entre
eux. Non, mais c'est intéressant, puisque vous pourrez nous.
C'est un obstacle dans la tête. C'est un obstacle dans la tête, parce que tout ce que je viens d'expliquer au sujet de l'histoire, l'histoire n'est pas européenne, elle n'est pas américaine, elle n'est pas finlandaise,
elle
n'est pas mongole, elle n'est pas malgache. Toutes les sociétés ont une histoire. Et la raison humaine est sommée de trouver les méthodes pour écrire l'histoire de sa propre vie, de sa propre société. Ça, ça n'est pas quelque chose qui appartient aux Européens. Quand je dis scolastique, toutes les cultures du monde souffrent de la pensée scolastique, c'est-à-dire qui devient une répétition à l'école de formules qui arrêtent la réflexion. Dans toutes les cultures, ça se trouve, y compris la culture arabe et musulmane. Donc il est faux de dire qu'on transporte dans l'islam des catégories européennes. Ça, c'est une manière de revenir à la polémique contre l'Occident à partir de l'islam. C'est-à-dire qu'on transfère tout ce que j'essaye de faire sur le plan de la connaissance historique, brusquement, paf, on saute dans le discours idéologique, politique, et puis
dans la réflexion.
On en reste là et on n'avance pas comme vous l'avez dit.
Elle vous demande aussi par quel paradigme vous pourriez faire la séparation entre ce que vous appelez l'islam prophétique et l'islam historique. Tout ne s'inscrit-il pas dans l'histoire? C'est la question qu'elle
pose. Ah, voilà quelque chose de mieux. Voilà quelque chose de mieux. Là, nous sommes en train d'avancer. Effectivement, le discours prophétique s'inscrit dans l'histoire des hommes. Le prophète parle aux hommes qui vivent leur histoire et produisent leur histoire. La preuve, c'est que les contemporains du prophète ont réagi en tant que membres d'une société où il y avait déjà une religion, comme je l'ai expliqué. Et il va y avoir un heurt. Et ça, c'est de l'histoire. Ce heurt-là, c'est de l'histoire. Il y a eu des conflits entre les Banu Soufiane et les Banu Hashim, deux clans de Quraysh qui se sont heurtés pour des questions de pouvoir à la Mecque. Un pouvoir représenté par les idoles, c'est-à-dire la religion polythéiste, jusqu'à l'émergence de l'islam qui a dit maintenant cette légitimité politique doit disparaître et être remplacée par la légitimité. Ça, c'est de l'histoire. Donc, cette question, voilà une question qui a saisi l'importance de l'histoire.
D'accord. Professeur Harkoun, un autre appel. Bonjour.
Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, madame.
Votre prénom, s'il vous plaît.
Amal.
Bonjour, Amal. Tfadali,
hadrat. Aïssik. Souhaite la docteure... أسأل يعني حول دور العقل في قضية الإيمان وهل هناك أمور يختص بها الوجدان وليس للعقل فيها إلا التسليم هذا هو السؤال
دور العقل في قضية
الإيمان وهل هناك أمور يختص بها الوجدان وليس للعقل فيها إلا التسليم
شكرا جزيلا أمل merci à très bientôt
oui, oui.
Professeur Harkoun, je vous laisse traduire la question.
Oui, oui. Le rôle de la raison.
Voilà.
Le rôle de la raison en matière de croyance. Est-ce que on doit donner la parole uniquement et entièrement à la raison et oublier que dans la croyance, il y a une adhésion de la sensibilité, une adhésion émotionnelle. Il y a la vie affective et émotionnelle de l'homme. Bien sûr, il n'a jamais été question de réduire la croyance uniquement à ce que dit la raison. Mais la raison a un rôle très important pour justement surveiller et contenir les débordements de l'émotion. Parce que lorsque nous sommes émus, notre raison est suspendue. On ne peut plus réfléchir. Donc la raison a un rôle de
d'équilibre.
Et de revenir à la raison, comme on dit. Quand on est en colère, on fait des bêtises et même des catastrophes. Et la raison n'est pas d'accord. Et donc la raison doit toujours être là. Il faut lui donner toujours sa place.
Et en croyance, on est
plus fort. Mais la raison ne prétend jamais exercer un dogmatisme et dire il faut croire ou ne pas croire. Ça n'est pas son affaire. Et donc, l'émotion, effectivement, l'affectivité, la sensibilité font partie de la vie des hommes et des femmes.
Professeur Harkou, nous prenons le dernier appel. Ah, ça a coupé. J'ai une question de Samoudi Driss. Il vous demande quel rôle doit jouer l'islam dans la vie quotidienne des musulmans afin de leur garantir la dignité, la prospérité et surtout le développement. Est-ce qu'une société laïque démocrate est la meilleure solution vu les dégradations des valeurs spirituelles dans le monde occidental? Oui. Il vous remercie.
Alors, j'ai déjà dit que... Bon, il me dit quel rôle peut jouer l'islam pour la prospérité, etc. J'ai déjà dit que les religions, pas seulement l'islam, sont des productions des hommes en société. Ce sont les hommes qui interprètent les textes sources de la religion. Et quand nous commençons à interpréter les textes sources, il va y avoir des débats, des oppositions, des différences entre nous. Alors, nous tombons dans des oppositions de type intellectuel, de type spirituel et de type politique. Car le spirituel et l'intellectuel ne peuvent pas se détacher du politique. Et ce sont les oppositions politiques qui vont freiner, empêcher, compromettre les éclaircissements que nous devons avoir au sujet, justement, du rôle de la religion, de ce que la religion doit signifier pour ceux qui y croient et qui veulent éclairer leur conduite d'après ce que dit la religion. Mais cet éclairage-là ne peut pas se faire si nous n'avons pas la force de distinguer entre l'utilisation politique, l'utilisation scientifique et intellectuelle de ce qui a rapport à la religion. Il faut accepter de faire là aussi cet effort et cet exercice.
Professeur Harkou, nous prenons notre dernier appel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, votre prénom, s'il vous plaît.
Moi, c'est Najib de Paris.
Ahlan Najib, tfaddal hadratak.
Alors, moi, j'ai deux questions au professeur Harkoun.
Alors, très courte, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup
de temps. Donc, à quelle période le professeur Harkoun remonte-t-il la chute ou le sommeil, le soubet, donc, de la pensée musulmane classique, et par quoi explique-t-il cette longue période de 6 siècles, pratiquement?
Oui.
Donc, ma deuxième question, c'est, est-ce que vous croyez pas, monsieur Harkoun, est-ce que vous croyez qu'on est encore obligé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de passer par le discours religieux pour parler et justifier dans le monde arabe et musulman donc le besoin de modernité et de démocratie dans ce monde? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est justement ce discours qui retarde et empêche encore cette démocratisation?
Merci beaucoup Najib pour vos questions pertinentes.
Excellent, excellent. Malheureusement, vous voyez, j'aurais voulu répondre longuement à cette bonne question. Effectivement, ça pose la question de la modernité. Et en France, nous sommes en France, c'est toute la question de la religion et de la laïcité. Voilà le grand problème. Et malheureusement, nous ne sommes pas bien équipés, ni du côté de la laïcité. On est un peu plus équipés du côté de la laïcité, mais même là, il y a des manques, ni du côté, encore moins, du côté de la religion, pour bien traiter la question qui vient d'être posée. Est-ce que nous avons besoin de repasser ou de passer à nouveau par la religion pour aller vers la modernité? Je crois que, très brièvement, il faut dire que nous n'avons normalement pas besoin de revenir à ce passé médiéval, pour les raisons que j'ai dites, parce que la modernité a fait beaucoup de travail, a apporté beaucoup. Nous avons des acquis de la modernité. Seulement, ces acquis ne sont pas à la disposition de tous. Si nous faisons, par exemple, la sociologie de la population française aujourd'hui, nous allons découvrir une grande proportion de la société française, telle qu'elle est aujourd'hui dans sa composition, qui n'accède pas à la modernité. pour diverses raisons. Et c'est parce que donc, il y a une large partie de la société qui n'accède pas à la modernité que nous avons le devoir politique et le devoir éducatif de parler la langue de ceux qui n'accèdent pas encore à la modernité, comme disait l'auditeur ou l'auditrice tout à l'heure, ceux qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont coupés de la modernité. Et donc là, c'est tout un travail à la fois politique, culturel, éducatif, qui doit se faire dans les sociétés. Bon, je parle de la société française, que dire des sociétés arabo-musulmanes ou turco-musulmanes, du monde musulman en général, où les moyens d'éducation et les ressources pour l'éducation sont malheureusement extrêmement insuffisantes.
Merci beaucoup, professeur Mohamed Alkoun. Je rappelle que vous êtes professeur de la pensée islamique à Paris 3, de l'histoire de la pensée islamique à Paris 3, et attaché à plusieurs universités européennes et américaines, auteur du livre de Manhattan à Bagdad, Au-delà du bien et du mal, sorti aux éditions des Clés de Brouwer. Il faut absolument l'acheter, le lire. Merci beaucoup à Rachid Benzine, chercheur en herméneutique coranique, science de l'interprétation des textes sacrés, et auteur du livre Les Nouveaux Penseurs de l'Islam aux éditions Albin Michel. Ça aussi, il faut le lire. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la pensée arabe, il faut absolument vous procurer le Que sais-je du professeur Mohamed Alkoun. Tout y est dit, c'est très intéressant. Je vous conseille vivement de l'acheter. 5 sur 5, la radio vous écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on se retrouve dimanche dès 11h pour la dernière émission consacrée à l'islam. Donc là, nous parlerons du discours coranique, une émission très, très, très importante à ne pas rater. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio-Orient. Tout de suite, le journal en langue française, suivi à 12h30 du journal en langue arabe.